إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous allons donc terminer ce soir, inshallah ta'ala, cet épître, les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a terminé dans la précédente assise le troisième fondement concernant la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'assise de ce soir, nous allons voir quelques questions par lesquelles l'auteur, rahimahullah ta'ala, a conclu cet épître. Il a donc commencé, rahimahullah ta'ala, en disant « وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُ يُبْعَثُونَ » Et les gens, après leur mort, ils seront ressuscités. Il va donc traiter ici de la foi en la résurrection. Après avoir parlé de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il voulait te rappeler, rahimahullah ta'ala, qu'il y a quelque chose après cette mort, que tu vas être ressuscité. Car l'ensemble de l'humanité, que ce soit les croyants ou les mécréants et même les athées, tous savent et sont unanimes que tout humain mourira et que toute âme goûtera la mort. Il n'y a personne qui renie la mort, qui renie le fait que l'être humain mourira, car ceci est une chose perceptible. Cependant, le point de divergence ou le point de discorde entre les croyants et les mécréants, il concerne la résurrection après la mort, c'est-à-dire le retour des corps et le retour des âmes dans ces corps après qu'ils soient devenus poussière et qu'ils aient été éparpillés dans la terre. Ces corps, Allah subhanahu wa ta'ala leur redonnera leur forme, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui les a créés la première fois, donc il est tout autant capable de réinsuffler les âmes dans ces corps et les faire sortir de leur tombe pour les faire se rendre vers le grand rassemblement. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné la preuve de cela. Car comme on l'a vu depuis le début de cet épître, il ne mentionne pas une chose sans en mentionner la preuve, rahimahullah. Il a donc dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve, c'est-à-dire concernant la résurrection, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. C'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que nous vous avons créée. Et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. C'est d'elle que nous vous avons créé, c'est-à-dire à partir de la terre, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam, alayhi salam, qui est le père des hommes. Et en elle, nous vous ferons retourner, c'est-à-dire après la mort, lorsque les gens sont enterrés. Et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Et ceci est la preuve de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir les corps des tombes, il leur redonnera leur première forme et réinsufflera en eux les âmes, puis tous les gens seront rassemblés. Donc, ce verset, il nous prouve le début de la création ainsi que la résurrection. Et il a mentionné un deuxième verset qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha, wa yukhrijukum ikhraja. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, c'est-à-dire lorsqu'il a créé Adam alayhi salam. Puis il vous y fera retourner après la mort, lorsque les gens sont enterrés et qu'ils sont dans leur tombe, et vous en fera sortir véritablement. Ceci nous prouve donc, une fois de plus, la résurrection. Et d'autres versets nombreux prouvent que les gens seront ressuscités après leur mort. Et il y a également des preuves rationnelles prouvant que les hommes seront ressuscités après leur mort. Et ceci est même mentionné dans le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer les hommes, alors à plus forte raison, il est capable de leur redonner la vie après la mort. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 27 de Surat al-Rum, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Donc, de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la création, il est alors encore plus facile pour lui de refaire cette même création. Parmi les preuves également de la résurrection, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il redonne à la terre sa vie après qu'elle soit morte. Vous voyez tous, lors de fortes chaleurs, les terres s'assécher et devenir arides. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel la pluie et redonne vie à cette terre qui redevient verte. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie à cette terre après l'avoir fait mourir, alors il peut également redonner la vie à nos corps après nous avoir fait mourir. Parmi les choses que les savants mentionnent également, prouvant que les gens seront ressuscités, il y a le fait que si il n'y avait pas de résurrection et qu'il n'y aurait rien après la mort, comme le prétendent les mécréants ou les athées ou autres, alors ceci voudrait dire nécessairement que les gens ont été créés en vain, sans aucun but, et que sur cette terre vivent le pieux et le pervers sans qu'il n'y ait aucun but après cela. Ils vivent, ils meurent, sans que le croyant obtienne sa récompense et sans que le mécréant obtienne son châtiment et sa rétribution. Ceci ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse les gens ainsi sans rétribuer les gens de la foi pour leur foi et leur bienfaisance et sans rétribuer les mécréants pour leurs crimes et leurs mécréances. Ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a certes dit dans son noble livre, dans le verset 31 de Surat al-Najm, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Et c'est à Allah qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont mal agi selon ce qu'ils ont œuvré, et récompense ceux qui ont fait le bien de la meilleure des récompenses. Et ceci aura lieu au jour de la résurrection. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 21 de Surat al-Jathiyah, « Am hasiba alladhina jatarahu s-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu s-salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. » Ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme est mauvais leur jugement? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter les hommes afin de les juger. Et il va rétribuer en bien celui qui était bienfaisant et il va rétribuer le malfaisant et le mécréant en fonction de leurs œuvres. C'est pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit ensuite « وَبَعْدَ الْبَحْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ » Et après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes en fonction de leurs œuvres. Et la preuve, c'est le verset de Surat al-Najm que l'on a déjà lu. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Et c'est à Allah qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont mal agi en fonction de leurs œuvres et qu'il récompense ceux qui sont bienfaisants par la meilleure des récompenses. Donc, ceci fait partie des choses qui auront lieu au jour de la résurrection. Et les gens seront jugés et devront rendre compte de leurs actes. Et les gens de science ont mentionné que les musulmans seront de différentes catégories au jour de la résurrection. La première catégorie d'entre eux, ce sont ceux qui ne seront pas jugés. Il ne leur sera pas demandé de compte. Et ils rentreront directement au paradis, sans jugement ni châtiment. Comme cela est mentionné dans le hadith des 70 000 qui rentreront au paradis, sans jugement ni châtiment. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui seront jugés, mais d'un jugement facile. C'est-à-dire que leur œuvre leur seront exposées seulement. Ils ne seront pas jugés en détail, mais leur jugement sera facile et simplifié. Et ceux-là aussi seront parmi les bienheureux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Inshiqaq, « فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile. Il retournera réjoui auprès de sa famille. La troisième catégorie, ce sont ceux qui seront jugés en détail et à qui il sera demandé des comptes de façon détaillée. Et ceux-là, ils sont en danger. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui dont les comptes sont détaillés sera châtié. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres que d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Quant aux mécréants, les savants ont divergé à leur sujet. Est-ce qu'ils vont être jugés ou non? Vont-ils rendre des comptes ou non? Parmi les savants, certains ont dit que les mécréants ne devront pas rendre de comptes, car ils n'ont pas de hasanat, ils n'ont pas de bonnes actions. Ils iront directement au feu de l'enfer. Et parmi les gens de science, il y en a qui ont dit qu'ils seront jugés, mais que ce jugement est un jugement de reconnaissance, afin de leur exposer leurs mécréances et leurs mauvaises œuvres, puis ils seront jetés en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc, ceci fait partie des choses auxquelles le musulman doit avoir une foi ferme. Il doit avoir la certitude à ce sujet que, après notre mort, nous serons ressuscités et que les gens seront rétribués en fonction de leurs œuvres. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a insisté sur le fait qu'il est indispensable et obligatoire de croire en cela. Et il a dit, rahimahullah, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَحْثِ كَفَرْ. Et quiconque renie la résurrection, il est alors mécréant. Celui qui renie la résurrection, il a en réalité renié la foi au jour dernier. Il est donc négateur, il dément la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les messagers d'Allah, alayhimu salatu wa salam, ainsi que les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés au sujet de la résurrection. Et ses messagers, alayhimu salatu wa salam, nous a informés au sujet de cela. Et ceci est mentionné dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Ce verset, il nous prouve que quiconque renie la résurrection, c'est un mécréant. Comme ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort, comme le font certains parmi les polythéistes, les adorateurs d'idoles, et comme le faisaient les adorateurs d'idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils reniaient la résurrection. Et nul ne renie la résurrection si ce n'est un mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le voyez dans ce verset, il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer que les gens seront ressuscités. Qul bala wa rabbi, dis mais si, par mon Seigneur. La tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Vous serez ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Wa dhalika 'ala Allah yasir. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a commencé cette conclusion par ce sujet très important, qui est de savoir que l'on sera ressuscité après notre mort. Il a mentionné cela, notamment du fait que certains parmi les Bédouins et les Arabes, à son époque dans la péninsule arabique, reniaient la résurrection, comme le faisaient les premiers polythéistes. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a voulu insister sur ce point et mentionner qu'il est indispensable de croire que tu seras ressuscité après ta mort et qu'il y a une autre vie après la mort. Également, il est possible qu'il ait mentionné ce sujet après t'avoir rappelé les trois fondements, les trois choses sur lesquelles tu seras interrogé dans ta tombe, afin de te rappeler l'existence de ce jour et qu'il est indispensable que tu te prépares pour ce moment pendant que tu es encore vivant. C'est-à-dire qu'il te rappelle que tu vas être ressuscité après ta mort, que tu seras premièrement interrogé sur ces trois fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète lorsque tu seras dans ta tombe? Puis, le jour du jugement, tu seras interrogé au sujet de tes œuvres. As-tu voué le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou lui as-tu donné des associés? As-tu suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ou as-tu suivi autre que lui? Ainsi que d'autres questions qui seront posées aux serviteurs au jour de la résurrection. Puis il est passé à une autre question qui concerne la foi au messager, alayhi salatu wa salam. Il a dit, rahimahullah, « Wa arsala Allahu jami'a ar-rusul mubashirin wa mundirin. » Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur. « Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala. » Et la preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Rusulam mubashirin wa mundirin. » Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens aucun argument. Les messagers, alayhim salatu wa salam, ils sont donc annonciateurs et avertisseurs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont venus annoncer la bonne nouvelle du paradis à quiconque voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donne aucun associé. Ils sont venus annoncer la bonne nouvelle du paradis à quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarte de ses interdits et suit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont venus avertir les mécréants et les polythéistes du châtiment de l'enfer à cause de leur polythéisme. Et ils sont venus également avertir les désobéissants de la menace qui repose sur eux, la menace de l'enfer, du fait de leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ils sont venus établir la preuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans ce verset, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَعْدَ الرُّسُولِ. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens aucun argument. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. Le premier d'entre eux est Nuh عليه السلام et le dernier est Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il a mentionné la preuve que Nuh est le premier. Il a dit: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. Et la preuve indiquant que Nuh alayhi salam est le premier des messagers est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc Nuh alayhi salam, c'est le premier des messagers alayhi salatu wa salam, comme le prouve ce verset, et aux prophètes après lui. C'est-à-dire qu'il est le premier et que tous les autres ont reçu une révélation tout comme lui. Et il y a une preuve encore plus explicite que cela dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith appelé hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne ce qui va se passer au jour de la résurrection, lorsque les gens vont se diriger vers les différents prophètes pour leur demander de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les juger. Alors ils vont se rendre vers Nuh alayhi salam et ils vont lui dire: « Oh Nuh, tu es le premier messager qui a été envoyé aux gens sur terre. » Donc Nuh alayhi salam, c'est le premier des messagers alayhi salatu wassalam. Quant à Adam alayhi salam, c'est un prophète. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 40 de surat Al-Ahzab. والله سبحانه وتعالى دي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et dans un hadith rapporté par Abu Dawud et d'autres, et qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le dernier des prophètes et il n'y a pas de prophète après moi. Donc, le dernier des prophètes qui a été envoyé sur terre, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun prophète ne sera envoyé après lui, et ce, jusqu'à la venue de l'heure. Cependant, sa législation, elle est restée. Sa religion, elle perdure jusqu'à la venue de l'heure, comme nous l'avons vu dans la précédente assise. Cependant, il n'y a aucun prophète après lui. Et quiconque prétend à la prophétie après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un mécréant. Et quiconque croit en lui, c'est également un mécréant car il n'y a pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit:
"Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan min Nuh ila Muhammad alayhi as-salatu was-salam ya'muruhum bi'ibadati Allah wahda wa yanhaahum 'an 'ibadati at-taghut."
Ici rahimahullah il va soulever une question très importante. Et il a dit: Allah a envoyé un messager à chaque communauté, depuis Nuh jusqu'à Mohammed, pour leur ordonner d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et leur interdire d'adorer le Tarout. Donc ceci est le message de l'ensemble des prophètes, alayhim salatu wassalam. Ils sont tous venus appeler au Tawhid, au fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à mécroire au Tarout. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur a mentionné:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ.
Nous avons certes envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Donc tous, du premier jusqu'au dernier, ils sont venus appeler au Tawhid, au fait de vouer un culte exclusif Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont appelé à la mécréance au Tarout. Le point important ici qu'il a voulu souligner, c'est que tous les messagers, alayhi salat wa salam, ils sont venus avec un seul et même message, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont interdit toute forme de polythéisme. Ceci est la voix et la da'wa et le prêche et le message de l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhi salat wa salam. Après cela, en ce qui concerne le licite et l'illicite, leur législation était différente selon ce qui convenait à leur communauté, selon les besoins de leur communauté. Puis après cela, après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des législations étaient abrogées par l'islam. Donc, tout ce qui concerne le licite, l'illicite, les différents jugements, les ordres et les interdits et les adorations, tout ceci a été abrogé par la législation de l'islam. Mais la base est restée, c'est quoi ? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux détails de leur législation, alors ils différaient, et les détails de toutes les législations qui ont précédé, ils ont été abrogés par la législation de l'islam. Ainsi, quiconque persiste et reste sur une religion abrogée, comme le font les juifs et les chrétiens, alors ils sont mécréants et toutes leurs œuvres sont rejetées, car il n'est pas permis d'œuvrer selon une religion qui a été abrogé. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: certes, si Moussa était vivant, alayhi salam, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire qu'il aurait suivi la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc tous appelé à cela, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et à mécroire au Tarout. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc conclu son livre par cela et il a dit:
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
Et Allah a imposé à tous les serviteurs de mécroire au Tarout et de croire en Allah. Mais qu'est-ce que le Tarout? Nous savons ce qu'est la foi en Allah, mais qu'est-ce que signifie la mécréance au Tarout? Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a défini le Tarout. Et il a dit:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع.
ابن القيم رحمه الله تعالى a dit: le tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, alors c'est un tarout. Que ce soit un être adoré, un être suivi ou un être obéi. À partir du moment où il fait dépasser au serviteur ses limites, alors c'est un tarout. Et qu'est-ce que la limite du serviteur? On voit à travers cette définition que le serviteur, il ne doit pas dépasser sa limite. Et quelle est sa limite? Sa limite, c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Dhariyat. Et nous avons déjà vu ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est la limite de l'homme. À partir du moment où il dépasse cette limite, Il outrepasse cette limite et sort de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer autre que lui, alors il est rentré dans la définition du tarout. Et il a dit, rahimahullah, que ça soit un être adoré, suivi ou obéi. Qu'est-ce que cela signifie? Un être adoré, comme par exemple les idoles que les polythéistes adorent, les tombeaux vers lesquels se rendent les adorateurs de tombes, ou toute autre chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où une adoration lui est vouée, alors ceci est un tarout. Ceci est un tarout s'il agrée cette adoration, comme on va le voir après. Il a dit, ou un être suivi. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, il a ordonné à l'ensemble de la création de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc permis à personne de suivre autre que lui sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit de manière absolue, autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, et prétend que le suivi de cet autre est un suivi qui est permis, alors celui-ci est un tarout. Car il a suivi autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le suivi absolu, il est réservé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux savants, aux prédicateurs, à ceux qui appellent au bien, alors ceux-là ne sont suivis que s'ils suivent la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font que transmettre ou nous rappeler ce qu'a transmis d'Allah subhanahu wa ta'ala son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils sont venus avec une parole de vérité qui correspond à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, ceci est accepté d'eux. Donc, nous les suivons dans cela car cela correspond à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui s'opposent à cela, ceux qui contredisent la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors nous le délaissons et il n'est pas permis de les suivre en cela. Et comme l'a dit l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, de toute personne, nous prenons et nous rejetons en dehors de celui qui est dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ceux qui ont eu de l'exagération dans cela, il y a les gourous des confréries soufis. Leurs suiveurs les suivent aveuglément, même dans la désobéissance au messager, alayhi salatu wassalam. En effet, ils leur disent qu'ils n'ont pas besoin des messagers, car ils prétendent prendre leur religion d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ces gens font partie des têtes des tawarit, car il n'y a pas de voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Ali Imran au verset 31, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ » dit « Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager, Allah vous aimera. » Donc, celui qu'il nous convient de suivre, c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un tarout. De la même manière, celui qui appelle au suivi d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans cela. Ensuite, il a dit « au muta' » ou alors « un être obéi ». Car l'obéissance absolue, elle est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul » « Oh, vous qui croyez, obéissez à Allah » et obéissez au messager. Donc, ce qui est licite pour le musulman, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé comme licite. Et ce qui lui est interdit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il n'est permis à personne de s'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de juger une chose licite ou illicite. Donc, si une personne déclare des choses licites et des choses illicites et que les gens le suivent dans cela, alors que ceci s'oppose à ce qui est mentionné dans le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il rentre dans la définition du tarout, car il n'est permis à personne de rendre une chose licite ou illicite de lui-même. Et également, il n'est permis à personne d'obéir à quelqu'un qui a rendu une chose licite ou illicite de lui-même. Et quiconque fait cela, alors c'est un tarout ou alors un obéissant au tarout. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. Et les tawarit, donc c'est le pluriel de taout, ils sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de cinq. Et leurs têtes sont au nombre de cinq, c'est-à-dire leurs leaders. Et il a mentionné ces cinq, c'est-à-dire que les tawarit, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup d'êtres qui sont adorés, suivis ou obéis en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont très nombreux, mais leurs têtes, leurs meneurs, sont au nombre de cinq. Al-awwal, Iblis, la'anahu Allah. Le premier, c'est Iblis. Allah l'a maudit. C'est-à-dire, Allah l'a rejeté et l'a écarté de sa miséricorde car il a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam, et il a ainsi désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, par orgueil. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a maudit. Donc ici, ce n'est pas une invocation que l'auteur, rahimahullah, il fait. Mais c'est une information. Il dit, Iblis, la'anahu Allah. Iblis, Allah l'a maudit. Car il ne nous est pas demandé de maudire le diable, comme certains le font. Dès qu'il leur arrive une chose, ils maudissent le diable. Ceci ne fait pas partie de la législation. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a ordonné à celui dont la monture trébuche? De mentionner le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu maudis le diable, lorsque tu trébuches, lorsque tu fais tomber quelque chose ou autre, tu lui donnes de l'importance. Mais lorsqu'ici l'auteur il dit « La'anahu Allah », Allah l'a maudit. Il nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Et comme on l'a vu, on a mentionné la cause de cette malédiction. Donc Iblis, c'est la tête des tawarit. Car il est celui en réalité qui ordonne d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre autre que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il ordonne l'obéissance d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le licite et l'illicite. Il est donc la base et la source de toute mal. C'est même lui, la tête des tawarit. Ensuite, il a mentionné le deuxième. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ. Et celui qui est adoré en étant satisfait de cela. Donc, celui qui est satisfait de l'adoration que les gens lui vouent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, c'est un tarout. Quant à celui qui n'en est pas satisfait, mais qui n'agrée pas cela, alors ce n'est pas un tarout. Comme, par exemple, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il agrée cela? La réponse est bien évidemment non. Il n'agrée pas cela. Et il réprouve cela, alayhi salatu wa salam, et il n'a pas appelé sa communauté à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala le fera d'ailleurs venir au jour de la résurrection et lui demandera si c'est lui qui a ordonné cela aux gens. Et Isa alayhi salam, il se désavouera de cela. Il en est de même concernant les pieux et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils sont adorés en dehors d'Allah alors qu'ils réprouvent cela et ne l'agréent pas. Ce ne sont pas des tawarit. Celui qui est un tarout, c'est celui qui est satisfait de l'adoration que les gens lui vouent. Le troisième, il a dit, rahimahullah, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Et celui qui appelle les gens à l'adorer. Il n'y a pas de doute que celui-ci fait partie des têtes des tawarit. À l'exemple de Pharaon, qui a dit à son peuple, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Donc, celui-ci, il a appelé à être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, à notre époque, ceci est présent chez les extrémistes soufis qui appellent leurs suiveurs à les adorer. Il y en a même parmi eux qui, avant de mourir, laissent en testament que l'on construise un tombeau sur sa tombe et il appelle dans ce testament à ce que les gens viennent rechercher la bénédiction et viennent l'invoquer auprès de ce tombeau après sa mort. Celui-ci donc, il a appelé à être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci et de la mécréance. Il n'y a pas de doute que ceci est un appel à la mécréance. Et celui qui fait cela, c'est une tête de tawarit et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela, à la voix des extrémistes soufis qui appellent à ce genre de choses. Et il y a un point important à souligner ici, celui qui appelle à ce qu'on l'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci est un tarout. Même si personne ne répond à son appel. Le simple fait qu'il appelle les gens à l'adorer, alors ceci fait de lui un tarout, et ceci fait de lui un mécréant, et une tête parmi les têtes des tawarit, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième, il a dit, rahimahullah, وَمَنْ اِدَّعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Quiconque prétend connaître une partie de la science de l'imperceptible, comme ceux qui prétendent connaître l'avenir, comme le font les charlatans parmi les sorciers, les devins, les médiums, les voyants et autres charlatans. Donc toute personne qui prétend connaître une chose de l'imperceptible ou qui prétend connaître l'avenir, qui dit par exemple aux gens, il va t'arriver ceci ou cela, tu vas te marier cette année ou alors tu vas obtenir un travail ou toute autre chose parmi les choses qui font partie des choses de l'avenir qui ne sont donc pas perceptibles, alors cela sont des mécréants et ce sont des têtes parmi les têtes des tawarit. Car comme on l'a vu, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghaib. On a vu cela lors de l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. Enfin le cinquième, il a dit rahimahullah, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Et celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé. Celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, en rendant cela licite, en disant que cela est permis, alors celui-ci est un tarout. Celui qui dit qu'il est permis de juger par les lois inventées par les hommes, ou encore par les coutumes tribales, ou toute autre sorte de loi autre que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui délaisse la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils disent que ce qu'ils font est permis, ou alors que ceci est équivalent à la loi d'Allah, ou encore pire, que ceci est meilleur que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors tous ceux-ci sont mécréants. Celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, en disant que cela est permis, ou alors que cela est équivalent à la loi d'Allah, ou alors encore pire, que ceci est meilleur que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-ci a mécru d'une mécréance majeure. Il sort de l'islam et il fait partie des têtes des tawarit. Quant à celui qui juge par autre que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans croire que ceci est permis, ni que ceci est équivalent, ni que ceci est meilleur. Au contraire, il sait que ce par quoi il juge est faux, que son jugement est faux, et que la meilleure des lois et la seule loi permise est la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il juge par autre que la loi d'Allah, par suivi de ses passions, par amour de ce bas monde, ou alors suite à certaines pressions ou autres, ou par faiblesse, alors celui-ci ne mécroit pas d'une mécréance majeure. Mais sa mécréance est une mécréance mineure qu'il ne le fait pas sortir de la religion, comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Cependant, il faut savoir que cette personne, elle est en grand danger, car elle est sur une voie qui mène à la mécréance majeure, qui mène à la mécréance qui fait sortir de la religion de l'islam s'il est négligent à ce sujet et se laisse aller. Donc il faut prendre garde. Et la preuve que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah est un tarout, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nisa au verset 60 où il a dit subhanahu wa ta'ala يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Ils veulent prendre pour juge le tarout. Ensuite il a mentionné rahimahullah ta'ala la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à l'ensemble de ses serviteurs la mécréance au tarout et la foi en Allah. Et il a dit la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Donc comme vous le voyez, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder la mécréance au tarout à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut être profitable que si la personne mécroit au tarout. Ainsi, si une personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il ne mécroit pas au tarout, alors sa foi, elle ne lui est pas profitable. Comme celui qui dit, je suis croyant, je prie, je jeûne, je donne mon aumône, je fais le pèlerinage. Et ceux qui font cela, ça ne me regarde pas. Ils ne se désavouent pas du polythéisme, ainsi que de ses adeptes. Et il dit, ceci ne me regarde pas. Ceci les concerne, ils font ce qu'ils veulent. Celui-ci, il n'est pas musulman car il n'a pas mécru au tarout. Il est indispensable pour la personne, afin d'entrer en islam, de mécroire au tarout, de rejeter le tarout, d'avoir la ferme conviction en sa fausseté, de s'écarter de lui, de se désavouer de lui, ainsi que de ses adeptes. Ceci est indispensable, sinon la foi, elle ne sera pas valide, si ce n'est en mécroyant au tarout. C'est pour cela, comme on l'a vu lors de l'énoncé, des conditions de l'attestation de foi, certains savants ont rajouté comme huitième condition la mécréance au tarout, car ce point est d'une grande importance. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وَهَذَا مَعْنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ » Et ceci est le sens de « لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ ». C'est-à-dire, mécroire au tarout, « لَا إِلَهَا » Tu rejettes l'adoration de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu crois en Allah, « إِلَّا اللَّهِ » Tu affirmes que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est digne et mérite l'adoration de ses serviteurs. Enfin, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a conclu son livre par un hadith et il a dit « Wa fil hadith, ra'sul amri l'islam, wa amuduhu s-salah, wa dhirwatu sanamihi l-jihadu fi sabilillah. » Et dans le hadith, on trouve la chose la plus capitale est l'islam. Son pilier est la prière et son point culminant est le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la chose la plus capitale, la plus importante, la tête de toute chose, c'est quoi? C'est l'islam. Et comme on a vu, l'islam, c'est quoi? C'est la soumission à Allah par le tawhid, la sujétion à lui par son obéissance et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est ton islam. Et l'islam, par quoi tu rentres dans cela? Par les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'homme, il ne peut rentrer en islam que par la prononciation de ses paroles, leur mise en pratique, en comprenant leur sens et en ayant la ferme conviction de ce qu'elles impliquent. S'il ne fait pas cela, il ne rentre pas dans l'islam. Donc la chose la plus importante, c'est l'islam. Et son pilier est la prière. Son pilier, c'est-à-dire la chose sur laquelle repose sa religion. Sur quoi elle repose ta religion? Sur quoi elle est posée? Comme une tente. Pour faire une tente, tu dois poser des piliers. Pour construire une maison, tu dois faire des fondations et monter des piliers. Donc s'il n'y a pas ce pilier, il n'y a pas de religion. Et la religion ne peut être établie sans la prière. Donc s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'islam. C'est pour cela que les savants ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse, alors il mécroit selon l'avis le plus authentique, même s'il reconnaît son obligation. Car il ne sert à rien de reconnaître l'obligation de la prière alors qu'il ne la met pas en pratique. Ceci n'a aucun intérêt. C'est pour cela que nombre de gens de science ont stipulé la mécréance de celui qui délaisse la prière volontairement, même s'il reconnaît son obligation. Quant à celui qui renie son obligation, alors celui-ci est mécréant à l'unanimité des musulmans. Ensuite, il a dit, et son point culminant ou son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car ceci est une preuve de la force de l'islam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans ce hadith trois choses. La race, la tête, le pilier et le point le plus élevé. Donc s'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de présence de la religion à la base. La personne, elle n'est pas musulmane si elle ne se soumet pas et ne prononce pas les deux attestations de foi. Puis il a mentionné que cet islam, il avait un pilier. Donc celui qui ne prie pas, il n'a en réalité pas de religion. Même s'il atteste que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré et que Muhammad est son messager. Car pour établir sa religion, il a besoin de ce pilier sur lequel va reposer sa religion. Et enfin, si il n'y a pas de combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la force de l'islam disparaît. Et l'islam devient faible. Les musulmans deviennent faibles. Il n'y a donc pas de force pour l'islam et les musulmans, si ce n'est par la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un signe de la force des musulmans. Et c'est par ce hadith donc que l'auteur rahimahullah ta'ala a conclu ce livre, puis il a dit « Wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. » Enfin, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de terminer l'étude de cette épître immense, les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah ta'ala, qui fait partie des épîtres de base qu'il convient à tout musulman et à toute musulmane d'étudier, de comprendre et de mettre en pratique. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les manquements et les erreurs ne proviennent que de moi et du diable.
et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.